Bonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais, la pression était devenue trop forte. Le Premier ministre du Mali a donc jeté l'éponge hier soir. Soumaïlou Boubey Maïga a démissionné avec son gouvernement moins d'un mois après le terrible massacre de 160 civils peuls à Ogoussagou, dans le centre du pays. Il évite ainsi l'épreuve de la motion de censure au Parlement, dont le vote était prévu aujourd'hui. Soumaïlou Boubey Maïga avait tenté le tout pour le tout en recevant ces derniers jours les dignitaires religieux, les dirigeants politiques et les représentants de la société civile. Car face au climat d'insécurité permanent, une partie du pays est vent debout. Début avril, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à Bamako pour dénoncer la mauvaise gestion du pays. D'influents dignitaires religieux musulmans réclamaient également le départ du gouvernement. La présidence malienne a fait savoir qu'un premier ministre sera nommé très prochainement pour former un nouveau gouvernement. Alors question, comment choisir le futur premier ministre? Quelle doit être la démarche pour aller vers l'apaisement? Nous avons posé la question à l'éditorialiste malien Alexis Calambry. Écoutez.
Et quelqu'un en qui tout le monde va se reconnaître et en tout cas qui est capable de faire assez le consensus. Je pense que pour succéder à Soumaïlou Boubey Maïga, il faut en tout état de cause quelqu'un de consensuel, une personnalité qui peut rassembler tout le monde au-delà des alliances politiques, au-delà des chapelles politiques, que le Premier ministre à venir soit capable de parler avec tout le monde et surtout de regarder tout le monde dans les yeux. Donc, il n'a pas de casserole, il n'a pas un passé trouble. De surcroît, pour ce genre de personnalité, le nom n'est pas le plus important pour le moment. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un en qui tout le monde va se reconnaître et en tout cas qui est capable de faire assez le consensus encore une fois.
Voilà Alexis Calambry qui répondait à notre correspondant à Bamako, Mamadou Kane, dans la région de Mopti, au centre. Avant même la tuerie d'Ogoussagou, les Nations Unies faisaient état de 600 morts et de milliers de déplacés depuis un an à cause d'agressions intercommunautaires. L'insécurité toujours, mais cette fois au Cameroun, au moins 11 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une attaque perpétrée par Boko Haram. Cela s'est passé dans l'extrême nord du pays où le groupe djihadiste nigérian a fait une incursion vers la localité de Tchakamari. Des enfants font partie des victimes de cette tuerie qui s'est prolongée sur plusieurs heures de la nuit. Dans cette région, les attaques meurtrières se sont multipliées ces derniers mois après une relative accalmie l'année dernière. On poursuit avec cette illustration du climat de tension au Burundi. Dans un enregistrement audio parvenu à l'agence France Presse, un haut responsable de la police burundaise menace publiquement d'éliminer les membres du principal parti d'opposition et leurs familles s'ils organisent ce qu'il appelle des réunions clandestines à leur domicile. Plusieurs témoins sous couvert d'anonymat, dont des officiels, ont confirmé l'authenticité de cet enregistrement. Le commissaire en question était celui qui dirigeait la police dans les quartiers sud de Bujumbura au plus fort de la crise en 2015. Dans l'enregistrement, il explique avoir toujours sur lui des explosifs prêts à être utilisés. En RDC, on apprend qu'au moins une personne a été tuée vendredi dans l'attaque d'un hôpital à Butembo, actuel épicentre de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Une attaque qui intervient dans la foulée de la visite du président Tshisekedi dans la région, visite lors de laquelle il apprenait la tolérance zéro face à l'insécurité. Enfin, Baraka, ça suffit, scande à nouveau la rue en Algérie. 9e vendredi consécutif de manifestations. Une foule immense est encore assemblée dans les rues du centre d'Alger, la capitale. Les contestataires réclament toujours le départ du pouvoir de l'ancien système.